des musiciens à cause des accointances de Victor Segalen avec Debussy, et aussi des sinologues, parce que cet homme est l'auteur de poèmes qu'on a très très longtemps cru traduits du chinois. Donc, c'est quelqu'un de tout à fait étonnant comme personnage, et qui est à la fois un homme des départs, des évasions, mais qui est aussi un homme du retour à Huel Watt. Et quel retour ? Quel retour ? C'est que Victor Segalen, qui a presque toujours laissé ses livres dans l'incertitude du dénouement, par exemple son dernier livre sur René Leys, on le termine sans savoir de quoi est mort le héros, s'il est mort de poison ou s'il est mort de belle mort, comme on dit, enfin, on ne sait pas comment il a disparu. Et chose absolument étonnante, et du reste, quelqu'un comme, est-ce que c'était Cocteau, est-ce que c'était Valéry, je ne sais plus, mais je crois même que c'était André Breton, qui a dit que cet écrivain laissait toujours ses livres porte-battantes. Ce qui est assez beau pour caractériser peut-être aussi une entreprise comme celle que vous avez inventée, Françoise. Bon, là, je suis en train de digresser, pardonnez-moi, mais en tout cas, cet écrivain assez extraordinaire revient au pays natal avec l'idée de consacrer cette fois un nouveau livre à son paysage originel, à son paysage breton originel, et à cette forêt du Huel Watt qui est toute bruissante de légendes et qui est aussi hérissée de pierres levées, bizarre. Et vous savez que Segalen avait un amour particulier pour les stèles auxquelles il a consacré tout un livre. Donc, il revenait vers la forêt du Huel Watt avec l'idée de transporter son exotisme sur le terrain local, sur ici. Donc, il y a quelque chose, et il meurt comme son héros René Leys, il meurt dans la forêt du Huel Watt, où il est allé se promener. Il meurt, il s'est blessé à une jambe, mais il s'est soigné, comme il est médecin, il s'est fait un garrot, je ne sais pas quoi. Et cependant, il meurt adossé à un arbre et on ne sait toujours pas de quoi. Il y a quelque chose d'absolument fascinant dans le fait que la vie se soit mise à rencontrer l'œuvre, et que le mystère qu'il a mis dans ses romans, ou dans ses récits plus exactement, se retrouve dans le dessin même de sa vie. Vous allez me dire, tout ça n'a rien à voir, la forêt, l'école, ses galettes. Ben si, à mon avis, il y a un lien entre les trois coups de foudre de la Dame du Lieu, qui est une constante navigation entre l'ici, chez nous, et l'ailleurs. Ségolène revient au pays natal, ayant beaucoup voyagé et fréquenté l'ailleurs. L'école des filles, qui est ancrée dans le terroir breton, n'en est pas moins complètement tournée vers l'avenir et la modernité, et vers les promesses de l'avenir, c'est le sens même de l'éducation. Et quant à la forêt, un souvenir d'enfance de Françoise nous aide un peu à comprendre ce que c'était que pour l'enfant que la forêt où elle venait tous les dimanches jouer avec sa grand-mère. Quel était son jeu favori ? C'était de confier au canal des petits bouts de bois en guise de bateau qu'elle voyait partir, vite avalés par le déversoir, pour s'en aller ailleurs. Et elle m'a dit avoir vu dans ce jeu quelque chose qui était un emblème, enfin une illustration ou une allégorie, je ne sais pas, de son propre destin. Je l'ai interprétée immédiatement dans un registre mélancolique. Elle m'a dit non, ce n'est pas du tout une rêverie de disparition, c'est une rêverie d'évasion, c'est une rêverie de partance. Et au fond, je crois que ça donne un peu la clé des trois coups de foudre pour Huelgoat. C'est au fond une image dynamique qui est présente dans les trois coups de foudre dont on pourrait pas pourtant faire le contraire de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire montrer les différences, parce que l'école est bien le lieu où le rationnel triomphe, alors que dans la forêt c'est l'inverse. Mais je ne veux pas compliquer la chose et surtout aller un peu plus loin, car après tout cela, après ces coups de foudre et la création du centre d'art, ensuite transformé en lieu culturel des dimanches de l'été, on a beaucoup dit à Françoise qu'elle était complètement folle. Et elle le reconnaît elle-même, et en un sens, c'était vrai. Et ceux d'entre vous qui ont organisé ne serait-ce qu'une rencontre, culturelle ou patrimoniale, ou quelque rencontre que ce soit, savent par quelles angoisses passe l'organisateur quand il organise une rencontre. Est-ce que les invités vont venir? Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'ils n'auront pas raté le train? Qu'est-ce qu'on fait en cas de défection ou de désistement? Et puis comment loger, nourrir, accueillir les participants? C'est toujours une performance. Quand la performance se répète tout l'été, le long de 13 dimanches qui ont aussi annexé les samedis, ça devient une entreprise assez compliquée. Et d'autant que le public que vous illustrez aujourd'hui a répondu. Il y a eu parfois 600 personnes dans la cour, on a beaucoup manqué de chaises, et j'aime bien raconter que dans ce cas, le curé de Huelgoat est venu apporter à l'école du diable le secours de ses prie-dieux. Je vous dis qu'il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns au fond de la cour, et je trouve ça merveilleux, et je rêve un peu à ce que les républicains de 1910, quand ils ont inauguré cette école en pleine guerre scolaire, en plein combat laïque, je pense un peu à ce qu'ils auraient imaginé si le curé était venu... Enfin bref, vous avez compris. Par ailleurs, à la réussite des 13 dimanches de l'été, a beaucoup contribué la diversité des personnes qui ont été invitées et la richesse des sujets traités. Qui n'a-t-on pas rencontré dans la cour de l'école de Huelgoat? On a pu rencontrer un prix Nobel de littérature, le Clitio, si je ne m'abuse. On a pu rencontrer des académiciens, Éric Orsenna, Alain Finkielkraut. On a pu rencontrer des ministres, un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, un ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. On a eu la chance d'entendre les confidences d'Ingrid Bettencourt, Retour de l'Enfer. On a pu faire la connaissance d'une icône de la liberté féminine, l'iranienne Marjan Satrapi. Faire la connaissance d'un peintre coréen venu tout l'hiver à Huelgoat, s'inspirer du chaos granitique et de la beauté de la forêt. On a pu écouter la parole pédagogique et péremptoire de Michel Onfray, qui n'était pas encore gagné par le délire zémourien. Bref, donc belle diversité, et on a pu chaque été, ça c'était merveilleux, retrouver une sorte de vieux Farfadet, de Tintin, oui, de Tintin malicieux qui camouflait son savoir encyclopédique sous ses cheveux longs et ses chemises fleuries, et qui était Alain Rey en personne, un fidèle et un génie du lieu. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu aussi sous les tilleuls ? On a célébré les grands noms de la littérature française, on a célébré Beaumarchais, La Fontaine, Proust. Le préau a retenti des vers de Marot, de Hugo, bien sûr, d'Apollinaire, d'Aragon, etc. On a salué l'entrée de Victor Ségalène dans la bibliothèque de la Pléiade. On a entendu Christophe Honoré, le metteur en scène, parler de la difficulté de passer des mots aux images. Bref, tout cela, mis en bloc, a composé, au fond, un hymne au savoir, à la beauté et probablement surtout à la liberté. Cette liberté, c'est elle, à mon avis, qui a dominé l'affaire. Elle a inspiré, par exemple, à Eric Orsenna une vibrante déclaration d'amour. Elle a suggéré à Elisabeth Rondinesco de donner ses sentiments sur mai 68 et la libre université de Vincennes. Et on a vu, je reviens à Alain Rey, embarquer vraiment tout l'auditoire sur le petit esquif frêle d'un mot du vocabulaire français choisi au hasard, et embarquer l'auditoire pendant une heure, un auditoire absolument, absolument captivé. Et c'était une manière de pour Alain Rey de rappeler, contre les déclinistes de tout poil qui foisonnent dans notre pays, la liberté des mots, qui, disait-il, heureusement, les mots n'ont pas besoin d'un ministère de l'immigration. Et il y avait là, voilà, quelque chose de formidable à entendre. Et au total, peu de problèmes, des problèmes angoissants de notre actualité ont été oubliés à UL Boîte, malgré le soleil, parce que toutes mes rencontres, à peu près sauf celle-ci, où c'est mon souvenir qui les transforme, se sont déroulées sous un soleil éclatant. Enfin, donc malgré le soleil du UL Boîte, je maintiens, et l'air tonique des vacances, on a débattu de quantité de choses graves, on a débattu du réchauffement climatique, amplement documenté, si je me souviens bien, par Jean Jouzel lui-même. On a entendu Annie Lebrun évoquer l'enlaidissement croissant d'un monde livré de plus en plus à la marchandisation, condamné à la médiocrité uniforme. On a pu aussi, grâce à quelqu'un comme Joyce Ormond, partager le quotidien d'un hôpital psychiatrique, entrer dans des logements insalubres, et on peut dire que ni le terrorisme, ni les émeutes urbaines, ni les violences conjugales n'ont été passées ici sous silence. Et dans cette abondance de sujets brûlants, le miracle, c'est qu'il n'y a eu aucun tabou et aucune censure. L'école, pourtant, a été taguée une fois. Elle a été taguée par des activistes, je ne sais pas trop de quelle obédience, parce qu'ils avaient compris que Pascal Bruckner viendrait le dimanche suivant parler de ce qu'il entend par racisme imaginaire. Bon, sur le mot sur lequel on peut en effet rêver et que l'on peut discuter. Mais ça a été en 13 été des 13 dimanches, ou des 13 dimanches des 13 étés, comme vous voulez, ça a été la seule fois où s'est manifesté contre quelque chose qui se faisait à UL Boîte, cette espèce d'histoire justicière et et pleine de ressentiment qui s'exerce si facilement aujourd'hui pour interdire à tel ou tel conférencier de prendre la parole dans telle ou telle université. Ça n'a pas été le cas ici, et c'est aussi un des éléments du petit miracle du Elwatt. Et enfin, pour finir, je pense que les menaces que je viens d'évoquer, en parlant des sujets qui n'ont pas été mis de côté à l'Elwatt, sont toujours, chaque jour, plus angoissants. Angoissants, je dis menaces, je crois. Enfin, bref, peu importe. Et ça peut mieux comprendre, je trouve, ce qui s'est vraiment joué ici. Il s'agissait de quoi, au fond? Il s'agissait d'un acte de foi sur la transmission, problème fondamental dont Michel a parlé, et une transmission dont nous vivons aujourd'hui la crise aiguë, parce que nous vivons un moment de l'effondrement de toutes les figures d'autorité, qu'il s'agisse des gouvernants, qu'il s'agisse des juges, qu'il s'agisse des professeurs, qu'il s'agisse des pères de famille, on peut multiplier la liste, les figures d'autorité sont désormais partout discréditées. Et ça se traduit évidemment par l'effondrement des modèles du passé. On pourrait voir là l'aboutissement d'une prophétie qu'avait faite Tocqueville, qui disait que le mouvement même de la démocratie brisait la chaîne des filiations et mettait les anneaux à part. C'est-à-dire qu'il y avait une désaffiliation progressive du monde en régime démocratique où les individus se trouvaient finalement isolés et seuls. Et il y a un mot magnifique qui résume tout cela, à mes yeux, qui est un mot de Napoléon, peut-être apocryphe, mais Napoléon passe pour avoir dit un jour « Je suis mon ancêtre ». Je suis mon ancêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'abord, je ne dois rien à personne au-dessus de moi ou au-delà de moi. Tout ce qui me concerne, mes goûts, mes intérêts, mes opinions, mes passions, tout vient de moi et de moi seul. Quand ce genre d'opinion triomphe, cela veut dire que plus personne n'a de dette à honorer envers personne. Et quand nous voyons s'effacer dans la jeunesse le sens de la dette, disparaître l'idée d'un devoir collectif ou d'une action collective, et que l'indifférence gagne partout, il me semble que, revenant sur l'expérience de l'été des 13 dimanches, tout dans cet été des 13 dimanches voulait inquiéter au moins, j'allais dire bousculer cette indifférence, peut-être pas, mais au moins l'inquiéter. Donc, acte de foi dans la transmission, mais, dès qu'on a parlé de la transmission, un problème se pose qui est un problème urgent. Que doit-on transmettre? Une fois qu'on a dit qu'il fallait transmettre, il faut encore régler le problème du contenu de cette transmission. Et à partir de la Révolution française, un soupçon s'est mis à peser sur la transmission. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on transmet? Est-ce qu'on veut libérer ou est-ce qu'on veut au contraire enchaîner les jeunes générations au savoir et aux certitudes du passé? C'est un débat qui a occupé toute la Révolution française et tout le XIXe siècle suivant. Du reste, ce débat est encore vivant parmi nous, et parfois, dans le choix des programmes d'enseignement, par exemple, on accuse volontiers les enseignants d'encombrer les enfants d'un savoir inutile, d'un savoir qui ne leur servira à rien dans la vie. C'est ce que j'appelle le raisonnement princesse de Clèves. Le raisonnement princesse de Clèves, parce que ça fait allusion à Sarkozy qui avait dit « Mais à quoi bon leur faire lire la princesse de Clèves ?» De fait, on peut tenir ce raisonnement. Et à ce raisonnement, j'ai toujours envie d'opposer l'exemple de la grande Simone Veil, je parle de la philosophe. qui, voulant soutenir les ouvrières du puits en grève, avait entrepris, pour les conforter dans leur combat, de leur lire qui Sophocle. Et je trouve qu'il y a dans cette histoire de Simone Veil, réveillant l'enthousiasme des grévistes du puits avec la lecture de Sophocle, une réponse à tous ces gens qui disent que tout ce savoir ne sert absolument à rien. Or, le programme intellectuel des 13 dimanches a, il me semble, constamment évité le piège qui est contenu dans cette interrogation. Parce qu'en effet, on a envie de dire, oui, ils ont des choses plus urgentes à faire que lire la princesse de Clèves. Et cependant, il y a un piège dans cette question, qui est le piège de déconsidérer de manière définitive tous les savoirs du passé. Et je pense qu'ici, on a constamment, collectivement, plaidé pour la transaction nécessaire entre l'ancien et le nouveau. Est-ce qu'on peut prendre des exemples? Il y en a à foison. La première exposition de Françoise, la première avant même du temps du centre d'art, tout seul, pas avec l'été des 13 dimanches, la première exposition était une exposition consacrée au costume breton, un quoi de plus local. Mais qui a animé cette rencontre? Paco Rabanne. Paco Rabanne, couturier catalan, exilé de Franco, et qui s'était beaucoup intéressé aux costumes bretons et en avait gardé l'inspiration dans sa propre création. Bon, c'est un exemple patrimonial. Il y en a d'autres. Françoise a imaginé tout un été d'occuper les murs du dortoir par une exposition de façades de lit clos, façades de lit clos de diverses régions bretonnes, chacun des lit clos d'ailleurs muni par quelqu'un de très savant d'une fiche signalétique disant l'origine du lit clos et le décor sculpté qui a cours dans le pays glacique, dans le Poer, dans le Goïlo, je ne sais pas. Mais dans cette exposition tout à fait patrimoniale, Françoise avait, dans les portes ouvertes des lit clos, inséré des tableaux abstraits de l'art contemporain dans les façades de l'art populaire ancien. Donc, il y a 1000 exemples comme ça. Quant à Alain Rey, je reviens toujours à lui parce que c'était vraiment une figure inspirante de ce lieu. Quand Alain Rey embarquait l'auditoire sur un mot quelconque, il déployait la longue tradition historique qui avait abouti à ce mot, mais il accueillait aussi les mots chelous, comme il disait, les mots chelous, les mots louches, venus des banlieues, ou venus d'ailleurs des parlers régionaux, en faisant remarquer que pour les mots sont légitimes dès qu'ils sont utilisés, et que c'est l'usage qui en est le juge suprême pour les mots. Donc, là aussi, il y avait la longue tradition historique de chaque mot, et pourtant, l'espèce de liberté d'un mot nouveau à s'imposer à côté des anciens, et peut-être d'ailleurs à renouveler d'une certaine manière aussi de voir le monde. Donc, il me semble que les rencontres du Helvoet ont toujours veillé à ne pas humilier la tradition au nom de la liberté, et réciproquement à ne pas humilier la liberté au nom de la tradition. Et cette remarque, vous savez, nous ramène à l'école, et nous ramène à ce que c'est qu'une école, une fois de plus. Parce que l'école, c'est bien le lieu de l'héritage. C'est le lieu où chaque enfant hérite des savoirs qui se sont accumulés jusqu'à lui. Et donc, un domaine lié forcément au passé culturel. Mais, chaque mois de septembre déverse dans une classe une toplade, j'allais dire une cargaison, de nouveaux venus, d'êtres neufs. Et chez ces êtres neufs, il faut aussi préserver la capacité de créer et d'innover. Et c'est là, d'ailleurs, le pari extraordinaire de tout enseignement. Faire les deux à la fois. Ne pas enfermer l'enfant dans les modèles anciens, mais faire de ces modèles anciens un tremplin pour l'innovation et pour la création. C'est un débat qui est constamment d'ailleurs présent parmi nous. D'ailleurs, il suffit de parler d'Alain Finkielkraut, qui est venu ici à l'école entretenir l'auditoire et qui tient ferme, et peut-être un peu beaucoup ferme, sur les savoirs anciens et qui pense que l'école n'a pas à s'adapter aux conditions nouvelles de l'existence, ce qui est aussi, d'une certaine manière, une folie. Il faut évidemment faire les deux. Et on peut dire aussi, pour poursuivre la discussion, que certes, la liberté est fondamentale, c'est elle qu'il faut aimer par-dessus tout, mais qu'elle ne se construit qu'à partir de nos appartenances. Nous ne construisons pas notre liberté dans le vide absolu. Il faut donc bien s'appuyer sur les appartenances et sur les particularités pour aller à l'universel. C'est sur quoi Michel a conclu et qui, effectivement, je trouve, a été mis en œuvre, heureusement, le long des rencontres du Helwaz. Et j'en viens enfin, mais cette fois c'est vraiment enfin, à l'essentiel, c'est que les années que nous venons de vivre ont été marquées par une épidémie dans nos murs, par une guerre près de nos frontières et par la haine et le ressentiment partout. Si bien que nous sommes aujourd'hui plus que jamais, je crois, conscients de l'extrême fragilité de notre système culturel. Nous savons que le siècle précédent a été témoin d'une barbarie inédite, mais nous n'en sommes pas préservés. Cette barbarie inédite, il faut le rappeler, est née paradoxalement dans une nation européenne où on ne l'aurait pas attendu. Imaginez qu'on ait demandé à un intellectuel quelconque des années 30, dans quel pays d'Europe avait la chance de s'installer une barbarie d'un type totalement nouveau et abominable, qui aurait pensé à l'Allemagne ? Nation civilisée, philosophe, musicienne. Personne n'aurait pensé à l'Allemagne. Et je pense que c'est un exemple sur lequel nous devons beaucoup réfléchir, parce que nous ne sommes pas exempts de ces possibilités et de ces menaces quand les gens disent « oui, mais pas en France ». Donc, je pense malheureusement que les gens se trompent, parce qu'aujourd'hui, avec le perfectionnement constant des moyens de destruction massive, avec l'exaspération des rancunes nationales et avec aussi l'accroissement de la sauvagerie, y compris de la sauvagerie des mots employés. Là aussi, je pense à une étude absolument extraordinaire de Klemperer sur le triomphe du nazisme et qui montre à quel point d'avoir consenti à employer des mots excessifs, démesurés, a contribué à une sorte d'engourdissement, d'ankylose générale de la population. Et donc aujourd'hui, quand on emploie constamment le mot d'assassin ou l'image de la guillotine pour étiqueter les gouvernants de toutes sortes, je crois qu'il y a quelque chose à laquelle il faut faire tout à fait attention, parce que beaucoup d'entre nous, et je dois dire que j'en suis, pensent que nous sommes en train de vivre peut-être le prologue d'une grande catastrophe qui peut être climatique, qui peut être politique, qui peut même être militaire si la guerre vient à nous gagner nous-mêmes. Et c'est là, je pense, que les rencontres de l'école des filles avaient tout leur sens, parce qu'elles ont chaque été plaidé pour la fréquentation des grandes œuvres, qui, de toute manière, même si on les dit obsolètes, cette fréquentation nourrit, embellit, adoucit la vie. Elles sont entrées dans les grands débats, mais en gardant l'esprit de l'échange courtois. Elles ont célébré la diversité sous toutes ses formes, existentielles, mais aussi intellectuelles, esthétiques, bien entendu. Elles ont retrouvé la complexité et l'ambiguïté des rapports entre les hommes. Elles ont, et ça c'est très important, étendu la curiosité à l'ailleurs, à d'autres mondes que le nôtre. Bref, contre toutes les simplifications péremptoires et meurtrières de l'existence, elles ont semé partout les doutes et les interrogations, et au fond, est-ce trop dire dans tout cela qu'il y a eu une entreprise de résistance à la barbarie? Je ne crois pas que ce soit trop dire. C'était ça, l'été des 13 dimanches à Uelwatt, et il est impérieux, je pense, de le voir sous d'autres formes, peut-être, se perpétuer.